présume que le son est bon. En même temps, j'ai tendance à parler plus fort que passé. Donc, si c'est trop fort, faites-moi signe. Si c'est pas assez fort, faites-moi signe aussi. Alors, ben, bonjour tout le monde. Merci pour l'invitation à vous parler de la loi sur la laïcité de l'État, ses origines et ses suites récentes. C'est vraiment un plaisir pour moi là, de prendre la parole devant des anciens collègues dans plusieurs cas. Il y en a plusieurs d'entre vous qui étaient toujours professeurs lorsque je suis arrivé moi-même comme étudiant et ensuite comme professeur. Donc, c'est vraiment un plaisir de vous voir. 2024, c'est l'année du 5e anniversaire de la loi sur la laïcité de l'État adoptée en 2019. D'ailleurs, c'est la semaine dernière, j'étais en commission parlementaire à Québec parce que la disposition de souveraineté parlementaire, qu'on appelait autrefois la clause dérogatoire, doit être renouvelée aux 5 ans. Donc, c'est en ce moment à l'Assemblée nationale, là, c'est ces jours-ci que ça se fait. Et donc, j'y étais. Alors, c'est vraiment, on est vraiment là, dans le 5e anniversaire pour le mois de juin prochain, là, plus précisément. Alors, c'est une belle occasion pour mieux comprendre cette loi, pour s'y attarder, mieux la comprendre. Pour ce faire, je vais faire un bref détour par l'histoire du Québec, l'histoire, un peu d'histoire ancienne, mais assez rapidement, puis davantage de l'histoire récente. Et ensuite, je vais vous parler un peu du contenu de la loi de manière un petit peu plus technique, mais je pense que ça va être intéressant, faisant des liens avec la philosophie parfois. Et je vais parler de développement récent concernant cette loi-là, qui, parfois, on passe un petit peu inaperçu, mais je pense que c'est important de voir tous les effets de cette loi-là, pas seulement l'interdiction du port de signes religieux, mais on va en parler aussi. Alors, je vais m'attarder à certaines mesures qui ont été adoptées dans la foulée de cette loi-là. En ce qui concerne l'histoire, ben, je vais faire ça vite parce que si ça se trouve, vous la connaissez mieux que moi, vous l'avez plus vécu que moi. J'allais commencer en rappelant, c'est toujours bon quand on parle des plus jeunes, entre autres, de rappeler à quel point entre 1840 et 1960, l'Église catholique a été très influente au Québec. Et je pense qu'il faut toujours avoir ça en tête quand on essaie de comprendre la laïcisation qui aboutit à la loi sur la laïcité de l'État. Ensuite, évidemment, les années 60, la Révolution tranquille, qu'on associe beaucoup à tentative puis réussite au moins partielle d'émancipation nationale, construction d'un État social. Mais de plus en plus, quand on regarde les nouveaux travaux de recherche, notamment Paquette et ses Savard qui viennent de publier un livre, et tout, on réalise qu'il y a peut-être une troisième facette liée aux deux premières, d'ailleurs, qui est très importante dans la Révolution tranquille, qui est la laïcisation. Même si ça ne se fait pas d'un coup, même si c'est effectivement très tranquille, parce que bon, on crée le ministère de l'Éducation, mais finalement, l'Église, entre autres, demeure présente dans le domaine de l'éducation. Mais quand même, je pense que c'est un volet important de la Révolution tranquille. Je m'arrête ici parce que vous avez connu cette époque mieux que moi, donc je risquerais de dire des choses peut-être un petit peu théoriques et vous pourriez facilement me contredire, ça ne fera pas plaisir qu'on en parle davantage en période d'échange. Sinon, un autre moment important que j'ai bien connu, celui-là, c'est les années 90. Donc moi, je suis assez vieux pour avoir été élève d'école de la Commission scolaire catholique de Sherbrooke. C'est vraiment comme ça qu'on l'appelait. Donc on avait des écoles publiques, mais confessionnelles. Donc aujourd'hui, ça semble assez particulier. Puis quand je donne des conférences en France sur la loi sur la laïcité, que je rappelle ça, là, donc jusqu'à la fin des années 90, c'est quand même particulier. On a connu ça. Vous avez même connu qu'au moment de la première communion, on pouvait aller avec la maîtresse d'école à l'église. Là, il y avait ceux qui avaient le cours de morale et tout. Donc, bref, dans mon cas, je suis assez vieux pour avoir connu ça. C'est quand même particulier. Et 1997 arrive une modification constitutionnelle. Donc, le Québec, avec le consentement à la fois du Parlement québécois et du Parlement fédéral, donc ça se fait par une procédure de modification constitutionnelle bilatérale, on décide que les paragraphes de la Constitution de 1867, qui finalement rendaient obligatoire des commissions scolaires confessionnelles au Québec, on décide de rendre ces paragraphes-là inapplicables au Québec, donc ça permet au Québec de déconfessionnaliser les commissions scolaires, et c'est une autre étape importante dans la laïcisation. Je vous raconte ça pour dire que jusque-là, donc quand même pendant 30-40 ans pratiquement, la laïcisation au Québec, ça a progressé dans le cadre constitutionnel canadien sans qu'il y ait nécessairement d'obstacles insurmontables. C'est-à-dire que bon, toutes les premières mesures de création du ministère de l'Éducation, tout ça était possible. Là, quand à un moment donné, oups, là, effectivement, il y a eu un enjeu autour des paragraphes de la Constitution canadienne qui rendaient obligatoire des commissions scolaires confessionnelles au Québec, bien, la procédure d'amendement de la Constitution canadienne, réputée extrêmement rigide, difficile à mettre en œuvre, bien, cette fois-là, ça a marché. Donc, il y avait le gouvernement Bouchard, le gouvernement chrétien, qui n'était pas nécessairement d'accord sur tout, loin de là, mais qui là-dessus se sont entendus. Donc, ça vaut la peine de le rappeler comment cette fois-là, ça a été possible là, de progresser vers la laïcisation dans le cadre constitutionnel canadien, quitte à le modifier au passage. Mais en 2007, à partir de 2006, ça change. C'est là où laïcité québécoise, droit constitutionnel canadien, ça devient un peu plus complexe comme rapport. Et moi, je place le début de cette histoire récente qui nous mène à la loi sur la laïcité, moi je la place beaucoup à l'affaire Multani. Bon, évidemment, c'est mon parcours de juriste, mon regard de juriste, mais pour moi, l'affaire Multani, donc l'affaire du kirpan, comme on dit, donc un jeune de religion sikh qui souhaite porter son poignard religieux à l'école, et l'école, puis ultimement la commission scolaire décide de lui interdire, ça se rend jusqu'en Cour suprême, et la Cour suprême juge qu'il a droit à son poignard religieux au nom de droit à l'égalité, la liberté de religion et du multiculturalisme. Et pour moi, c'est vraiment le début de ce qu'on va appeler la crise des accommodements religieux, parce qu'il y a vraiment une réaction de l'opinion publique. Parfois, notamment dans le rapport Bouchard-Terreux, on va dire que cette crise-là, c'est un peu une création médiatique. Moi, je pense plutôt que ça a pu être enflé par les médias. C'est certainement que les médias ont été une caisse de résonance, mais je pense que c'est pas une pure fabrication des médias. Un exemple de ça, c'est que par exemple, au début de cette affaire-là, l'affaire Multani du Kirpan, à un moment donné, la presse, et ça a été révélé justement pendant les auditions de la commission Bouchard-Taylor, la presse, donc le journal La Presse, dévoile avoir reçu des milliers de courriels. Donc on est un peu au début des courriels, là, et ça faisait peut-être 5-10 ans que ça existait, donc c'était plus facile pour les gens d'écrire à des journaux que ça pouvait l'être 20 ans auparavant. Donc des milliers de courriels. C'est quand même pas rien, c'est pas tous les sujets de société, toujours-t-il important, qui génère des milliers de courriels à un journal. Donc, on voit qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'opinion publique, au-delà de le fait que les médias, ensuite, vont s'en emparer, exagérément ou pas, selon les opinions, mais il y a vraiment quelque chose là. L'autre chose que je veux souligner concernant l'affaire Multani, c'est que c'est intéressant parce que, pour moi, c'est vraiment le début de ce grand débat de société qui va mener à la loi sur la laïcité de l'État. Et c'est autour d'une religion qui n'est pas l'islam. Parce que plus tard dans le débat, ça va beaucoup être le voile, l'islam et tout, puis parfois ça va être utilisé par certains opposants de la loi pour dire mais finalement c'est une loi anti-islam, c'est pas une loi sur la laïcité. Et quand on refait un peu l'histoire, ben on réalise que non, au départ, en fait, c'est même pas l'islam qui est en jeu. Oui, ça va le devenir après, puis on en discutera, puis c'est un vrai enjeu. Mais au départ, c'est la religion sikh. Donc, c'est quand même intéressant de noter. Et ensuite, quand on regarde dans le détail de ce jugement-là, et là encore, c'est un peu mon regard de juriste, donc forcément, ça teinte mes analyses pour telle sociale, sociologique ou politique. À mon avis, une des raisons pourquoi ça accroche, bon, évidemment, il y a l'idée là, d'un arme blanche dans une école à Montréal, alors qu'il y a quand même des enjeux de sécurité. Il y a un témoin expert psychoéducateur qui vient expliquer que ce n'est pas l'idéal, que s'il y a un élève qui a une arme blanche, d'autres pourraient souhaiter en avoir. Donc, il y a vraiment des arguments assez concrets, de gros bon sens, diraient certains politiciens. Et par contre, il y a plus que ça. De mon point de vue de juriste, il y a plus que ça parce que, sur le plan technique juridique, la raison pourquoi il y a cette permission de porter un poignard religieux à l'école, c'est en vertu de la doctrine des accommodements religieux, donc plus largement des accommodements raisonnables. Et ça, cette doctrine-là, c'est une importation de la jurisprudence américaine en droit canadien. Donc, c'est la Cour suprême qui, à un moment donné, regarde des jugements rendus par la Cour suprême des États-Unis, dit « Ah, ben voilà, c'est super intéressant, c'est subtil comme argumentation, comme création et tout. » On importe ça en droit canadien. Donc, c'est pas un débat qu'il y a eu, on n'a pas décidé au Parlement de créer des accommodements religieux. Ça vient vraiment de la jurisprudence, des juges eux-mêmes qui, dans un système de common law, qui est notre système de droit public au Canada, au Québec, ben, c'est comme ça que ça fonctionne. Mais évidemment, la common law, je dis notre système, évidemment, au Québec, c'est un petit peu plus compliqué que ça, puisque en droit privé, on est de droit civil, tradition de droit civil, et Suzanne pourra vous en parler encore plus que moi. Donc, on a notre code civil en matière de droit privé, et en matière de droit public, la façon dont fonctionnent nos tribunaux et tout, bon, c'est beaucoup du droit d'origine britannique, de common law. Mais, moi, mon hypothèse, c'est que, au-delà du fait que pour les juristes, c'est super important, puis nous, on forme des étudiants en droit, puis on leur apprend le raisonnement de droit civil, qui n'est pas le même que la common law, puis bon, pour les juristes, c'est super important. Pour les non-juristes, c'est pas toujours quelque chose qui est su, mais pas nécessairement connu dans le détail. Mais moi, mon hypothèse, puis j'ai un étudiant qui a fait une thèse de doctorat un petit peu autour de ça, c'est qu'au-delà de
du fait que chez nous, il y a code civil, puis ailleurs, il n'y a pas de code civil. Au-delà de ça, puis bon, c'est surtout les avocats qui vont fouiller ça. Quoique des fois, un locataire peut facilement prendre son code civil, défendre ses droits, c'est plus facile, à mon avis, avec un code civil qu'avec des précédents jurisprudentiels difficiles à trouver. Mais au-delà de ça, je pense que la tradition du droit civil et le raisonnement, la façon de raisonner et d'élaborer nos règles de vivre ensemble dans une société, ça influence la société plus largement, pas seulement la communauté juridique. Donc la façon de réfléchir, ça, bon, on entendait souvent dans le débat sur les accommodements religieux, ça prend des règles claires, il faudrait encadrer ça. On entendait beaucoup des gens, des non-juristes dire ça. Là, il y avait des savants juristes qui disaient « Ben non, c'est déjà encadré, il y a 3-4 critères de common law, mais là, les critères de common law, c'est toujours un petit peu flou, on ne sait pas s'ils sont obligatoires ou cumulatifs, ou c'est toujours un peu artistique, puis c'est correct, ça laisse au juge plus de marge de manœuvre pour au cas par cas décider ce qui est juste ou pas, ce qui est la logique de la common law. Mais en droit civil, la logique, c'est plutôt le Parlement décide, en amont, avant les faits, de manière un peu abstraite, une grande règle générale. Alors qu'en commun là, c'est au cas par cas le juge, après les faits, qui va décider. Puis là, ben, à force de se décider au cas par cas, il s'en dégage des principes. Alors, c'est deux façons d'élaborer des règles de société très différentes. Alors, moi, je pense que le fait que les tribunaux aient importé au Canada la doctrine de l'accommodement religieux dans une juridiction de droit civil, c'est ce qui explique, entre autres, ça, puis évidemment les rapports avec le religieux qui sont différents au Québec des autres provinces, c'est évidemment tout ça est multifactoriel, mais je pense que le choc un peu des traditions juridiques peut être un facteur qui explique cette forte réaction contre les accommodements religieux, parce qu'il n'y a pas d'équivalent dans les autres provinces, là, de crise des accommodements religieux. Et l'autre facteur aussi, c'est que la Cour suprême du Canada ne s'est pas contentée d'importer la doctrine des accommodements religieux des États-Unis, puis simplement en faire un copier-coller, elle a un peu adapté, elle a un peu changé, de manière peut-être encore plus problématique pour le Québec. Parce qu'en gros, la doctrine des accommodements raisonnables, notamment religieux, c'est de dire, bon, lorsqu'il existe une règle d'application générale, mais qu'elle empêche, dans le cas des accommodements religieux, pour prendre cet exemple-là, lorsqu'elle empêche une personne de pratiquer sa religion, ben, on va prévoir une exception pour cette personne-là. On ne va pas abolir la règle, on va juste prévoir une exception pour cette personne-là. Donc, supposons qu'il y a une règle qui dit qu'il faut aller travailler le dimanche parce que voilà, tel service de l'État ou tel employeur a besoin de rouler le dimanche. Puis là, un employé dit ben moi, finalement, je viens de me convertir, puis dimanche, il faut vraiment que j'aille à l'église ou quoi. Ben là, on pourrait dire d'accord, donc, pour cet employé-là, il n'est pas obligé de travailler le dimanche, puis dans certains cas, il va être payé quand même. Ça peut même aller jusque-là. Donc, c'est un petit peu la logique de l'accommodement religieux. Mais en même temps, il y a une limite à ça, puis il y a une moyenne défense qu'on peut plaider. Lorsqu'on est employeur, par exemple, qu'on veut s'opposer à une demande d'accommodement, c'est la contrainte excessive. Donc, si comme employeur, ça peut être un organisme public, on arrive à démontrer que si on accommode cette personne-là, ça va créer une contrainte excessive. Donc, par exemple, on est sur le bord de la faillite, si on paye un dimanche par semaine un employé à ne pas travailler, on fait faillite. Bon, ben là, on peut démontrer que c'est une contrainte excessive. Donc, c'est la logique. Sauf qu'en droit américain, la contrainte excessive, le undue hardship, est interprétée comme dès que c'est plus que minimal, c'est excessif. Donc, dès que c'est. Si c'est minimal, c'est juste, bien là, lui, il ne travaillera pas dimanche, mais il est remplacé par un autre, puis ils vont échanger leur dimanche puis leur lundi. Ça n'a aucun impact sur l'employeur, ça a un impact minimal, il faut juste qu'il note ça dans son. Impact minimal, donc, l'employeur doit accommoder. Mais là, si on parle de payer un congé, puis là, c'est probablement plus que minimal. Donc, souvent, en droit américain, on va être beaucoup plus strict. Parce que dès que c'est plus que minimal, ça devient excessif. Or, la Cour suprême a dit, mais au Canada, c'est différent. Pour deux raisons essentiellement. Parce que dans la Constitution canadienne, il y a le principe du multiculturalisme. Dans la Charte canadienne des droits, on dit, la Charte canadienne doit s'interpréter dans le respect du patrimoine multiculturel des Canadiens. Donc, on dit, surtout si vous êtes d'une religion minoritaire, bien, il faut s'assurer que les normes de l'État qui peuvent être associées à la culture de la majorité ne doivent pas avoir. Faire peser des contraintes, cette fois-là, non pas sur l'employeur, mais sur le pratiquant. Donc, on a une optique qui dit, bon, ben, il faut s'assurer, il faut être généreux dans nos accommodements pour s'assurer que les membres des minorités, pour qui les normes de l'État sont pas nécessairement faites à la base, ben, est vraiment possible d'avoir une grande liberté de religion. Donc, il y a la question du multiculturalisme qui est dans la Constitution canadienne et qui n'est pas dans la Constitution américaine. Évidemment, sociologiquement, on peut penser qu'il y a du multiculturalisme aux États-Unis, on peut penser que, comme philosophie, ça a son influence aux États-Unis, mais juridiquement parlant, il n'y a pas de disposition interprétative relative au multiculturalisme dans la Constitution américaine, dans le Bill of Rights, comme il y en a une dans la Charte canadienne. Donc, la Cour mentionne ça dans, ça, je pense que c'est dans Central Canada. Et autre facteur qui joue, c'est que dans la Constitution américaine, il y a un principe, je dirais pas de laïcité, parce que c'est un terme très franco-français, puis secularism, c'est pas tout à fait de laïcité, parce que c'est un peu plus sociologique, alors que laïcité, c'est plus politique, mais il y a un principe, en tout cas, de neutralité religieuse de l'État. Il y a un principe, en fait, il y en a deux dans la Constitution américaine, c'est le free exercise, donc le libre exercice de la religion, donc on a le droit de participer à la partie qui est sa religion, faire des prières et tout, donc le free exercise, puis le non-establishment, donc le fait que c'est interdit pour le Congrès, puis ça a été interprété comme ça s'applique aux États, interdiction d'établir une religion d'État. Donc c'est dans la Constitution américaine comme terme. Au Canada, il n'y a pas ça. Il n'y a pas de non-establishment puis de free exercise. Ce qu'il y a dans la Constitution canadienne, dans la Charte canadienne des droits, c'est la liberté de religion. Puis là, de la liberté de religion, par interprétation, c'est quoi la liberté de religion? Bien, c'est à la fois le libre exercice, on peut faire des prières, aller à l'église ou à la synagogue ou à la mosquée et autres pratiques. Puis de l'autre côté, bien, il y a un principe de neutralité religieuse, parce que si l'État impose une religion, bien là, ça ne respecte pas la liberté de religion des citoyens. Fait qu'au fil du temps, une espèce d'interprétation de la liberté de religion de la Charte canadienne, et on est venu à couvrir un peu les deux volets qui, en droit américain, sont vraiment séparés. Vraiment free exercise, non-establishment. Et la raison pourquoi je vous raconte ça, c'est que même si en droit canadien ça existe, de par l'interprétation jurisprudentielle, ces deux volets-là, c'est quand même pas écrit dans la Constitution, mot pour mot, neutralité religieuse de l'État, ou non-establishment, interdiction d'établir une religion d'État. C'est pas dans le texte comme tel. Et donc, les tribunaux sont venus dire, bon, ben au Canada, oui, la liberté de religion de laquelle découle une neutralité religieuse, mais c'est pas comme aux États-Unis, on n'a pas une interdiction explicite d'établir une religion, donc on peut se permettre peut-être à nos institutions publiques de laisser plus de place aux religions, d'avoir plus d'accommodement religieux, parce qu'on n'a pas cette disposition constitutionnelle extrêmement précise qui vient interdire l'établissement d'une religion d'État. Donc, basé sur ces deux différences-là, le texte de la Constitution canadienne, le texte de la Constitution américaine, la Cour dit, mais finalement, le test pour les accommodements religieux va être un petit peu différent au Canada, puis ça va être plus facile d'avoir des accommodements religieux, puis un petit peu plus difficile de les refuser, même dans les organismes publics, où on peut penser qu'il y a peut-être des bons arguments en termes de laïcité là, pour refuser des demandes d'accommodement religieux. Donc ça, c'est le contexte. Donc, pour moi, ça commence là, et là, ça en suit beaucoup de comme je vous disais, des milliers de courrières, des lettres ouvertes, des débats. Rapidement, ça devient des débats de société. Autour de 2006-2007. Là est créée la commission Bouchard-Taylor, donc qui part, grande consultation partout, ils sont venus ici à Sherbrooke, on connaît un peu partout au Québec. Et là, il sort principalement deux choses. D'abord, les consultations comme telles, avant même le rapport, démontrent un peu qu'il y a beaucoup de monde, effectivement, qui ont des soucis, qui s'opposent aux accommodements religieux et tout. D'autres sont favorables, mais il y a quand même, voilà, ça passe pas comme une lettre à la poste, comme on dit. Malgré ça, la commission va dire les accommodements religieux, c'est très bien, puis s'il y a des gens qui s'y opposent et qui n'ont pas vraiment compris, il faut mieux leur expliquer. C'est un peu les médias qui ont mal rapporté certains cas. La commission Bouchard-Taylor avoue que ça passe plus ou moins bien. Merci beaucoup. La commission Bouchard-Taylor constate que ça passe pas bien dans la population au Québec, mais dit c'est quand même une bonne façon de faire, qu'il y a des belles valeurs derrière, de pluralisme et tout. Donc, on fait la promotion des accommodements religieux et il faut juste comme mieux les expliquer à la population. Mais en même temps, il y a une autre partie du rapport qui fait une petite concession peut-être au sentiment populaire, à l'opinion publique, puis aussi aux intellectuels qui sont venus s'exprimer en faveur d'une laïcité plus affirmée. Et donc, dans le rapport Bouchard-Taylor, on dit, bon ben, effectivement, puisque même si on est pour les accommodements religieux et tout, on pense quand même que la neutralité religieuse de l'État, c'est bien, il faut que ça s'incarne minimalement, ça ne peut pas juste être un principe abstrait. Donc, d'où la proposition d'interdire le port de signes religieux, soit pour des gens qui incarnent particulièrement l'État, donc par exemple au niveau de la présidence de l'Assemblée nationale, ou encore pour des représentants d'État, des fonctionnaires qui ont un pouvoir coercitif, donc un gardien de prison, donc agent de service correctionnel, des juges, des policiers. Donc c'est le sens de la proposition de la commission Bouchard-Taylor, mais pas les enseignants, ni les enseignantes par contre, on y reviendra tantôt, c'est une différence avec la loi. Donc, il y a cette proposition-là de la commission Bouchard-Taylor. À ce moment-là, le gouvernement Charest n'ira pas de l'avant avec particulièrement de mesures du rapport Bouchard-Taylor. On va laisser ça un peu. Il y aura un projet de loi, mais ils ne sont pas adoptés. Bon. Donc, il faut attendre le gouvernement de Pauline Marois en 2012. Puis, entre-temps, je pense juste avant de mémoire, vers tout début des années 2010 de mémoire, il y a un rapport du Conseil du statut de la femme qui va beaucoup plus loin puis qui dit qu'il faut carrément interdire le port de signes religieux à tous les fonctionnaires. Souvent, je résume, évidemment, c'est un avis très épais, très, très volumineux puis très, très fort en contenu, donc on pourrait aller lire et trouver plein de choses, mais souvent, je résume l'argument de la manière suivante par un syllogisme qui dit, en gros, l'idée, c'est de dire les religions sont contre l'égalité homme-femme, donc donner plus de place aux religions dans l'espace public, ça ne peut que faire reculer l'égalité homme-femme. En gros, je pense que ça résume l'argument de plusieurs féministes universalistes, là, d'autres féministes ont d'autres interprétations, évidemment, mais c'est un peu ça l'argument. Donc, argument auquel on peut penser que Mme Marois était sensible. Donc, avec son gouvernement, elle dépose le projet de loi de Charte des valeurs qui propose effectivement d'interdire le port de signes religieux à l'ensemble des fonctionnaires de l'État québécois. Et ça cause toute une controverse. Il y a même plein de gens qui s'y opposent au nom de la liberté de religion, protection des minorités, multiculturalisme et tout. D'autres, au contraire, sont favorables. Il y a tout un débat autour de cela. Et dans les mêmes années, toujours début des années, début milieu des années 2010, à ce moment-là, il y a également un jugement de la Cour suprême qui est rendu dans l'affaire R contre NS, où on ouvre la porte, c'est pas automatique, c'est pas dans tous les cas, là, c'est de la common law, donc c'est toujours un peu subtil avec des exceptions possibles, mais à la fin de la journée, la Cour suprême ouvre la porte à ce que dans certains cas, il puisse y avoir des témoignages, notamment dans des affaires criminelles, donc des gens qui témoignent avec le visage couvert pour des raisons religieuses. Alors que, bon, souvent on pense que